Bonjour à tous. Aujourd'hui, Interception, le magazine de la rédaction, cède la place à Regard Croisé, une émission proposée par l'Association des médias francophones publics. Regard Croisé vous propose, comme chaque année, d'aborder une même thématique grâce à 5 reportages en provenance des 5 radios de l'association, Radio France Internationale, la radio-télévision belge francophone, la radio-télévision suisse, Radio-Canada et Radio France.
Regard Croisé, les médias francophones publics sur France Inter.
Pour 2019, il s'agit d'illustrer une question bien dans l'actualité. Comment la société civile se réapproprie-t-elle la politique, notamment via la démocratie participative et les réseaux sociaux? En d'autres termes, Zuckerberg va-t-il supplanter Tocqueville? Nous irons successivement en Belgique, au Canada, en Suisse et au Kenya. Mais d'abord, retour sur l'histoire de la crise sociale des Gilets jaunes. Sans Facebook, comme le montre ce reportage de Sébastien Sabiron, le mouvement ne se serait sans doute pas développé de la même façon.
Bon, en espérant que ça fasse le tour de la toile au max.
Au départ de cette histoire, il y a Ghislain Coutard, personnage central retombé dans l'anonymat. 36 ans, mécanicien près de Narbonne. Le 24 octobre, il partage son ras-le-bol face caméra dans son camion en amont d'une journée de mobilisation contre la hausse du prix des carburants.
J'ai vu que ça bougeait un petit peu pour le 17 novembre. J'espère que les Français vont se motiver dans la rue pour le gasoil, pour les taxes, pour tout, on se fait enculer de partout. On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord. Un petit code couleur pour montrer que vous êtes d'accord avec nous, avec le mouvement. Participez le 17, sortez. Ah, on sort les trompettes et tout, on fait comme une coupe du monde, on s'amuse, on bloque tout. On bloque tout.
Tout bloqué, gilet jaune sur le dos, en 1 minute 20, il pose les bases d'un mouvement social inédit. Sa vidéo, partagée sur Facebook, est vue plus de 5 millions de fois, virale, tout comme celle d'une autre inconnue, Jacqueline Moureau.
J'ai deux petits mots à dire à Monsieur Macron et son gouvernement. Quand est-ce que ça va se terminer, la traque aux conducteurs que vous avez mis en place depuis que vous êtes là? J'ai fait une petite liste, mais on en a plein les bottes, c'est clair? Les nouveaux contrôles techniques, la moitié des voitures ne passent plus. La hausse du prix du carburant, ensuite la chasse aux véhicules diesel, l'augmentation du nombre des radars. Là maintenant, il y a une forêt de radars en France. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon?
Le 17 novembre, comme 200 000 Français, cette hypnothérapeute bretonne revêt son gilet jaune et occupe un rond-point. Propulsée par les réseaux sociaux, elle devient l'une des premières figures médiatiques de ce mouvement horizontal qui refuse leader et porte-parole. D'autres visages émergent au même moment.
Bonsoir Priscilla Ludowski, vous êtes un des visages des gilets jaunes. C'est vous qui aviez lancé cette pétition sur la taxe carburant.
Priscilla Ludowski, devenue en quelque sorte l'une des porte-parole de ce mouvement.
Éric Drouet, c'est l'une des figures du mouvement des Gilets jaunes.
Éric Drouet est chauffeur routier. D'un jour de novembre au lendemain, c'est Facebook Live. On fait de lui un people en gilet jaune.
Éric Drouet, l'initiateur des blocages du 17 novembre. Priscilla Ludowski, auteur d'une pétition virale pour la baisse des prix des carburants. Tous deux vivent en Seine-et-Marne, en région parisienne, mais ne se connaissent pas. Là encore, c'est Facebook qui va les réunir.
La première fois, on s'est contacté via les réseaux sociaux, forcément. C'est souvent par là. C'est lorsqu'il a lancé son mouvement, il m'a dit, voilà, moi j'ai une petite association, on monte un mouvement le 17. Moi, j'avais à côté ma pétition et lui, c'était sur Facebook. Lorsque j'ai commencé à faire les médias, j'en ai parlé du mouvement du 17 et du coup, ça a pris une ampleur un peu plus importante et puis ensuite, ça a atteint le niveau national. Voilà, c'est des passionnés d'automobile et en fait, on a juste joint nos actions, c'est tout. On traite de différents sujets, les manifs, comment on s'organise, comment on se contacte avec les régions. On est en contact tous les jours avec plein de gens depuis le mois d'octobre.
Sur les réseaux sociaux, chacune de leurs apparitions, chacune de leurs prises de parole est attendue, écoutée, analysée par les Gilets jaunes. Quelles actions mettre en place, où manifester le samedi, déclarer ou non les manifestations. Le mouvement se décline en centaines de groupes Facebook à travers la France. La page d'Éric Drouet, La France en colère, agrège plus de 300 000 membres, 175 000 pour celle de Maxime Nicole alias Flyrider, intérimaire breton et troisième figure du mouvement.
On essaye de mettre en lien des gens qui ont des compétences différentes, certains dans l'informatique, d'autres dans la gestion de pages Facebook, etc. Quelque chose de structuré sans que ce soit structuré pour que le gouvernement sache pas sur qui taper. Par exemple, sur mon groupe à moi, il y a un grand nombre de personnes qui m'aident à trier les publications. On enlève tout ce qui est propos haineux, tout ce qui est propos racistes, tout ce qui est propos misogynes, sectaires, tout ce qui est politique, syndical. On fait passer les informations, les violences policières. On essaye de faire en sorte que l'information circule correctement.
Facebook reste le QG numérique des Gilets jaunes et ce n'est pas un hasard. Le mouvement y est né et il s'y est développé grâce à un petit coup de pouce de Mark Zuckerberg. À l'été 2018, le patron de Facebook décide d'en changer l'algorithme qui privilégie désormais une forme d'entre-soi. Fabrice Epelboin, spécialiste des réseaux sociaux à Sciences Po Paris.
Facebook privilégie les groupes par rapport aux pages, ce qui change radicalement la façon dont les informations circulent et d'où elles viennent. Un média qui utilise Facebook aujourd'hui n'a plus du tout la même capacité à atteindre une audience qu'il l'avait il y a encore 6 mois. Des gens qui utilisent des groupes pour se coordonner sur Facebook ont infiniment plus d'audience aujourd'hui qu'il en avait il y a 6 mois. Ce grand bouleversement a eu des impacts politiques parce que Facebook, c'est un constituant essentiel de la société d'aujourd'hui. Les Gilets jaunes sont un phénomène qui est apparu du fait de cette prévalence de néo-groupes sur les pages.
En résumé, si vous êtes abonné à la fois aux pages de grands médias et à des groupes de Gilets jaunes, votre mur Facebook affichera en priorité les publications de ces groupes Gilets jaunes plutôt que des articles de presse. Revers de la médaille, cette bulle Facebook facilite la propagation de la rumeur, comme l'avait constaté Thibault Lefebvre sur le rond-point du Pouzin en Ardèche en décembre dernier.
Les Rothschild vendent tout en urgence et quelque chose se prépare. C'est le titre de la vidéo que Cathy a reçue sur sa messagerie personnelle Facebook. Plus de 650 000 visionnages et un message clairement complotiste et anxiogène.
Ils s'attendent vraiment à quelque chose comme une guerre.
Autour du petit écran lumineux, Cathy donc et une autre gilet jaune de la première heure, Elodie.
Ça doit être des conneries ça,
mais je sais pas.
Vous pensez que la guerre arrive ?
Peut-être.
Bah, c'est des conneries, c'est comme ce qui circule que le jour de l'anniversaire de Monsieur Macron, il va avoir un grand repas à la place des Champs-Élysées.
Un phénomène qui doit autant à la défiance des Gilets jaunes envers les médias traditionnels qu'à cette bulle de filtres générés par les réseaux sociaux, selon Fabrice Epelboin.
On en vient à propager une telle rumeur rapidement parce qu'on a une partie significative, si ce n'est majoritaire, de l'opinion publique qui n'est pas représentée dans les médias, qui discute entre elles et qui va, dès qu'elle a trouvé une réponse à ses angoisses, la partager de façon massive parce qu'elle ne la trouve pas ailleurs. C'est un phénomène de rareté et donc la rareté provoque l'attention. Les réseaux sociaux sont régis par des algorithmes dont le but est de vous faire passer le plus de temps possible sur les réseaux sociaux. Et on pourrait dire exactement la même chose de Google. Donc ils vont avoir tendance à vous donner des contenus qui vont vous faire rester dessus. Selon une quantité infinie de paramètres, effectivement, on peut s'enfermer dans un entre-soi.
5 mois après le début du mouvement, les ronds-points ont été libérés, les manifestations du samedi sont plus clairsemées qu'au début, mais les échanges sont toujours aussi vifs et dynamiques sur les réseaux sociaux. Début mars, selon des chercheurs de l'Université de Toulouse, plus de 108 000 messages étaient postés en seulement 5 jours sur le groupe Facebook La France en colère.
Plus au nord, en Belgique, nous vous proposons de faire avec la RTBF un bilan d'un autre type d'expérience, le budget participatif. Les citoyens sont appelés à décider ensemble de l'affectation d'une partie des ressources de leur commune. Le concept semble avoir un peu de mal à s'imposer. Barbara Schall de la RTBF est allée dans quelques communes de la région de Liège qui ont tenté l'expérience.
Je m'appelle Thierry de Bougnou, j'ai une exploitation laitière à Holm. La particularité d'Holm, c'est que c'est vraiment un beau village. C'est un des plus beaux villages de Wallonie qui a été façonné par les agriculteurs. Donc c'est très vert, c'est vallonné et ça attire beaucoup les touristes.
Devant la ferme familiale, un panneau a fait son apparition il y a quelques mois. On en retrouve un semblable devant presque toutes les exploitations agricoles de la commune. Un dispositif imaginé par quelques Aulnois dans le cadre d'un budget participatif, enveloppe 10 000 euros.
Le panneau, en fait, il représente le plan de la commune avec des numéros où se situe chaque producteur. Et alors avec le nom à côté et la spécialité de chaque producteur.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette démarche de consulter les citoyens pour utiliser une part du budget ?
Je pense que c'est une bonne chose. Les citoyens se sentent responsabilisés. Ça permet aussi aux citoyens de se rencontrer et d'avoir des points de vue bien souvent différents, mais qui sont toujours intéressants à entendre.
Gaston Strat nous rejoint. Agriculteur retraité, passionné par la vie de sa commune, il a mis tout son enthousiasme dans ce projet. Sur la bonne dizaine de réunions, il n'en a loupé qu'une seule.
On a démarré une 50aine de personnes. Et alors, à force qu'on discutait et qu'on ne parlait plus, il y a des gens qui ont descendu. Pour finir, on a fini avec une 10aine de personnes.
Donc voilà. Il y a eu une certaine démotivation en fait, au fil
oui,
du temps, c'est ça?
Oui, dû à ce qu'on ne voyait pas bien vers où ça allait. Si vous invitez les gens pour dire on va augmenter les poubelles de 50%, la salle sera pleine. Hein. Donc ils sont à leur porte-monnaie, ils sont vite à la réunion. Mais trouver des motivés bénévolement pour créer quelque chose de bien-être dans une commune, c'est quand même difficile partout.
Depuis quelques mois et les élections, d'autres ont pris les rênes de la commune. Changement de tête, changement de programme. Exit donc le budget participatif, trop laborieux. Les fonds ont été redirigés vers d'autres projets. Cédric Alain, le nouveau bourgmestre, nous reçoit à la maison communale. Avant, il était échevin des finances et il garde un souvenir plutôt mitigé de ces budgets participatifs.
Une des difficultés auxquelles on a été confronté, c'est qu'il fallait sans cesse contacter les gens, leur rappeler, donc ça veut dire qu'il faut envoyer des mails, il faut passer des coups de fil. Il faut savoir que nous, à la commune, on a engagé du personnel pour gérer cela. Et donc, ces personnes-là, ben, ça a un coût. Et si, in fine, ben, le mi-temps ou le temps plein de la personne que vous engagez, eh bien, il ne sert que pour qu'il y ait 3, 4, 5, 10 personnes sur 4000 habitants qui participent, c'est peut-être beaucoup de moyens par rapport au peu de résultats obtenus.
Direction Verviers maintenant, ville de 55 000 habitants. Ici aussi, l'ancienne majorité a fait l'expérience d'un budget participatif. Un appel à projet, plusieurs réponses de citoyens et quelques idées retenues par un jury. C'était en 2017, mais depuis, rien n'a bougé.
Il faut oser le constat suivant, ça n'a pas fonctionné correctement.
Jean-François Chefneux est le nouvel échevin au budget participatif. Malgré tout, il croit toujours au concept.
Oui, j'y crois parce que ça fonctionne ailleurs. Et il ne faut pas mal interpréter le constat d'échec que l'on peut avoir aujourd'hui. C'est probablement parce qu'on ne va pas assez loin et qu'on ne fait pas assez confiance aux citoyens que ça ne fonctionne pas. Je me demande si on n'a pas reproduit au niveau des citoyens le conflit politique que l'on rencontre au niveau des politiques. C'est-à-dire qu'on a des citoyens qui proposent des projets, qui se mobilisent sur des choses qui leur tiennent à cœur, et puis vous avez la frustration d'avoir des projets qui sont certains sélectionnés, d'autres mis de côté. Sur un même territoire, ou en tout cas à très grande proximité, vous avez des porteurs de projets qui ont des idées quasiment identiques. Et donc, la question est la suivante, ne devrait-on pas trouver des mécanismes qui permettent ensemble de s'accorder sur un plus petit nombre de projets, mais des projets qui soient tous finançables et réalisables ?
Inventer de nouveaux mécanismes pour consulter les citoyens. Dans les couloirs de l'Université de Liège, des cerveaux y travaillent.
Bonjour, je suis Maxime Petitjean, je suis politologue. Et donc maintenant, je travaille pour Mesidel, qui est une spin-off de l'Université de Liège, qui organise des consultations participatives en ligne.
Objectif de sa démarche, éviter conflits et frustrations dans les projets participatifs.
Pour prendre un exemple relativement simple, dans l'aménagement d'une route, certains vont penser que mettre des places de stationnement, c'est quelque chose de plus important, alors que d'autres vont penser que des pistes cyclables sont plus importantes. L'idée de faire rencontrer justement ces deux enjeux est quelque chose qui permet de se rendre compte que l'autre a des besoins aussi, et que pour que la vie en collectivité fonctionne, il faut prendre en compte également les besoins de l'autre.
Questionnaire, round 1, allez.
Ok, donc là on est devant un écran d'ordinateur. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous allez nous montrer ?
Donc, chaque personne qui va participer va recevoir un email avec un lien personnalisé qui lui permettra de se connecter anonymement sur une plateforme. Et là, s'offre à lui une série de questions avec une série de propositions. Ça peut être des questions sur la circulation automobile. Est-ce qu'il doit y avoir plus de places de stationnement ?
Donc, c'est très simple, hein, très intuitif. Ça se présente sous forme de petits quiz avec des cases à cocher. C'est pas un peu gadget, finalement, tout ça ?
La manière dont on va l'utiliser, effectivement, va définir si c'est un gadget ou pas. L'important, c'est de considérer que ça reste un outil, au même titre que des ateliers participatifs en présentiel. Et l'idée, c'est de faire participer les gens. Et donc, dans ce cadre-là, c'est un moyen pour y arriver.
Comme Mesidel, en Belgique, plusieurs petites sociétés de conseil s'intéressent aujourd'hui à ces initiatives participatives. Signe de l'engouement pour le phénomène. Alors, simple effet de mode ou véritable tendance?
C'est encore tôt pour dire qu'est-ce qui va se passer de tout ça, qu'est-ce qui va vraiment être mis en pratique et comment.
Lucia Aboutaoufik s'intéresse de très près au sujet. Elle travaille pour 21 Solutions, un bureau d'études installé à Bruxelles, au pied des institutions européennes. Son créneau, les démarches participatives.
Moi, mon souhait, c'est que cet effet de mode, si c'est ça, qu'il puisse vraiment aboutir à quelque chose, parce que ça fait longtemps qu'il y a une demande citoyenne d'ouverture des espaces de décision. C'est vraiment une opportunité, en fait. Tant pour les communes, pour aussi avoir l'expertise citoyenne, finalement. C'est vraiment les gens qui vivent la ville qui savent quelles sont vraiment les problématiques les plus importantes. Ce serait dommage que ce soit juste un moyen de communication. On verra, hein.
Jusqu'ici, en Belgique francophone, une vingtaine de communes ont déjà tenté l'expérience d'un budget participatif avec plus ou moins de succès.
En France, 80 villes, dont Paris et deux départements, le Gers et le Loiret, expérimentent aussi le budget participatif.
Regard croisé sur France Inter.
Direction maintenant le nord-est du Canada. Le Nunavut, territoire inuit, c'est 20% de la surface du pays et une population de moins de 40 000 habitants. Traditionnellement, les communautés inuites fonctionnent par consensus. Politiquement, le territoire est depuis exactement 20 ans autonome et tente d'appliquer ce modèle traditionnel. Il n'y a donc pas de parti politique, les députés sont élus à titre individuel. Un comité des aînés conseille le gouvernement afin qu'il intègre la culture inuite dans ses décisions. Mais comme le montre ce reportage de Marc Godbout de Radio-Canada, malgré cette démocratie originale, la transmission de la culture locale est plutôt difficile.
Mathilde Rousseau-Lé-Séné-La Révogo.
Une adolescente fière de ses racines, très consciente de l'importance de préserver les traditions de son peuple. Au nord du 60e parallèle, dans un local de musique de l'école secondaire d'Iqaluit, des élèves se réunissent pour développer leur technique vocale et de tambour. Minnie Akiakok fait partie de ce groupe aux multiples talents, à l'image du riche mouvement artistique inuit au Nunavut.
I love my culture.
J'aime ma culture et d'où je viens. J'ai appris des chansons traditionnelles et le chant de gorge il y a 11 ans, à l'âge de 4 ans.
Mais quand on plonge dans la réalité quotidienne de Minnie Okagok, une chose frappe. Si elle chante dans sa langue maternelle, l'Inuktitut, elle est incapable de la parler.
Ça me brise le cœur. Plus jeune, j'ai parlé Inuktitut, mais je l'ai perdu. Presque tout se passe en anglais à l'école. C'est difficile pour moi, surtout que je ne peux pas communiquer avec mes parents dans ma langue maternelle.
My parents speak Inuktitut.
Six semaines de travaux législatifs dans la capitale Iqaluit. Les députés sont appelés à siéger. La création du Nunavut, il y a 20 ans, a donné aux Inuits une plus grande autonomie politique. Mais ils sont de plus en plus nombreux à se demander si leurs intérêts sont vraiment protégés par le gouvernement territorial. Sandra Inutsik croit qu'il a échoué sur le plan de la langue et de l'éducation. La première femme inuite du Nunavut à devenir avocate considère que le gouvernement territorial ne parvient pas à servir la majorité inuite.
Quand les enfants entrent dans le système scolaire, ils commencent à perdre la langue inuite. Il y a peu d'efforts pour vraiment la protéger. Le gouvernement et le système d'éducation sont fondamentalement devenus un handicap pour sa survie.
Pourtant, la loi sur l'éducation devait garantir l'enseignement en langue inuite de la maternelle à la 12e année. Or, il est quasi impossible d'obtenir une éducation en Inuktitut après l'école primaire. C'est le cas à l'école de Minnie Okiagok.
Je veux que ma langue revienne. Elle doit être plus vivante et je veux l'apprendre. Mais je n'y parviendrai pas si tout se déroule en anglais autour de moi.
Au Nunavut, l'Inuktitut est la langue maternelle de près de 70% des Inuits. Mais elle décline lentement depuis le milieu du 20e siècle. D'autres données sont tout aussi, sinon plus troublantes. Suicides, violences, logements surpeuplés, insécurité alimentaire. Tous les indicateurs révèlent un portrait sombre dans le territoire qui couvre près d'un cinquième de la superficie du Canada. Pourtant, un des grands objectifs du Nunavut était d'encourager l'autosuffisance et le bien-être de la population.
Ça ne correspond pas à la vision des négociateurs qui ont travaillé si dur et sacrifié leur vie pour réaliser le Nunavut.
Aluki Kotiak est présidente du Nunavut Tongavik, l'organisme qui doit s'assurer du respect de l'accord historique ayant mené à la création du territoire. Elle déplore qu'après 20 ans, plusieurs engagements n'ait pas été honorée.
L'entente sur les revendications territoriales prévoit pourtant une force de travail représentative de la population inuite au sein du gouvernement. Mais nous sommes loin du compte.
Les Inuits représentent 85 % de la population du Nunavut, mais ils occupent à peine la moitié des emplois de l'appareil gouvernemental. Des emplois qui sont souvent au bas de la hiérarchie administrative.
Il est crucial que les Inuits occupent des postes à tous les niveaux. Ça permettrait de prendre des décisions et d'influencer la conception des politiques et des programmes.
Un gouvernement public administre le Nunavut. Il doit représenter les intérêts de l'ensemble des résidents du territoire, qu'ils soient Inuits ou non. Mais il n'a pas réussi à élever de façon notable le niveau de vie de la majorité de la population. Le premier ministre Joe Savikatak comprend l'impatience de nombreux Inuits.
Nous ne sommes peut-être pas là où certains voudraient être en raison des nombreux défis avec lesquels nous devons composer. Mais à mon avis, nous faisons bien et de notre mieux dans les circonstances actuelles.
Des aînés jouent passionnément aux échecs dans un centre communautaire. Ils se souviennent des premières luttes pour obtenir un gouvernement ethnique. C'était dans les années 70. L'entière autonomie leur avait été refusée par le gouvernement fédéral. Certains ici croient maintenant que le temps est venu d'entreprendre une réflexion. À la Nunavut Tungavik, la réflexion est déjà bien enclenchée. Le groupe qui protège les droits et intérêts des Inuits du Nunavut remet carrément en question le modèle de gouvernance actuel. Sa présidente, Aluki Kotsiak.
Nous explorons en ce moment les modèles potentiels d'autonomie gouvernementale. Y a-t-il une meilleure façon de servir les Inuits? Nous devons trouver la meilleure des options pour améliorer leur vie sociale, culturelle et économique.
En attendant, le Nunavut reste confronté à d'énormes défis. Le facteur démographique vient ajouter à la pression. La moitié de sa population est âgée de moins de 25 ans. Mini Akoagok fait partie de la relève et malgré les obstacles, elle est déterminée.
Je vais demander à ma mère si elle peut me trouver quelqu'un pour m'enseigner l'inuktitut. Je veux l'apprendre l'inuktitut. J'y tiens.
L'objectif de Mini est fixé. Mais 20 ans plus tard, la voie pour elle et son peuple reste encore à être tracée.
Alors que les Inuits canadiens tentent de préserver leur culture, certains jeunes Suisses veulent régénérer leur démocratie. Et c'est grâce à un financement participatif qu'ils ont réussi à créer Opération Libéraux, un mouvement plus qu'un parti. Pro-européens, ils se sont fixés comme objectif de contrer les souverainistes de l'UDC, l'Union démocratique du centre, le plus à droite des partis au gouvernement, que les autres forces politiques du pays peinent, selon eux, à contenir. Camille Degotte de la Radio-Télévision Suisse est allée à la rencontre de ces jeunes démocrates qui se veulent ni de gauche ni de droite et en même temps pro-européens.
La question des armes en Suisse est sensible. Elle touche à probablement l'identité de la Suisse, ou du citoyen suisse en tout cas.
Genève, premier rendez-vous avec la section locale d'Opération Libéraux. Une dizaine de militants est réunie dans le sous-sol d'un bistrot de quartier. Ils ont invité un spécialiste de l'Union européenne. Objectif, se préparer pour la campagne à venir.
Opération Libéraux a toujours pensé que la Suisse, étant un pays situé au cœur de l'Europe, un pays ouvert avec de larges frontières avec les pays membres de l'Union européenne.
Stéphane Decret, responsable de la campagne en Suisse romande.
Devait être un pays intégré dans l'espace européen, dans l'espace juridique européen aussi. Et donc aujourd'hui, simplement, cette question de la loi sur les armes, qui peut paraître une question très de politique intérieure, est en réalité une question de politique européenne, parce que c'est une condition pour rester intégré à l'Union européenne dans le cadre de l'accord Schengen.
D'autant plus que vous avez dans ces chargeurs d'armes, 15, 20, 25, 30 balles qui peuvent être mises. Et donc vous vous rendez compte du danger que ça peut représenter.
Alors je m'appelle Fanny Rondane, je suis coprésidente d'Opération Libéraux Genève depuis juin 2017. on s'est aperçu qu'il y avait un conservatisme beaucoup plus présent en Suisse, au sein des partis politiques, au sein du Parlement actuellement, au sein même de la population. On le ressent tous les jours, que c'est beaucoup plus difficile de parler d'Europe, de montrer à quel point l'Europe est positive, au niveau économique, au niveau sociétal également. On intervient justement comme acteur qui cherche à vraiment promouvoir les idées européennes. C'est exactement les mêmes idées qu'on partage avec l'Europe.
On peut être un peu surpris finalement de se dire, mais on est en Suisse, les Suisses y votent 4 fois par année, il y a les initiatives, il y a les référendums, il y a tous ces partis, on peut s'engager au niveau cantonal, au niveau communal. Comment ça se fait que, en tant que membre de la société civile, vous ayez ressenti ce besoin d'agir ailleurs que ce qu'offre déjà un peu la politique suisse?
Alors je pense que ça vient justement avec le changement un peu d'engagement citoyen. Chez les jeunes notamment, on perçoit vraiment un besoin différent des générations précédentes de s'engager sur des sujets un peu plus précis tels que le climat, la parité, des choses beaucoup plus spécifiques.
Bonsoir, le peuple suisse qui désavoue ses élites, c'est oui, à l'initiative UDC sur l'immigration, contre le Conseil fédéral, contre la plupart des partis.
Opération Libéraux est née après une défaite. C'est comme ça que les jeunes militants et militantes racontent la création du mouvement. Nous sommes en février 2014. La population suisse vote en faveur d'une initiative de l'Union démocratique du centre, un parti souverainiste. Objectif du texte, lutter contre l'immigration de masse. Mais il y a ces jeunes qui ne veulent pas que la Suisse devienne un musée à ciel ouvert. Ils dénoncent les valeurs conservatrices de l'UDC et se voient comme la nouvelle force qui fera avancer la Suisse. C'est la création d'Opération Libéraux. Aujourd'hui, le mouvement se voit comme une alternative aux partis politiques traditionnels. Stéphane Decret.
Quand on s'engage sur Opération Libéraux, on s'engage sur un nombre restreint de thèmes. On n'est pas obligé d'adhérer à un corpus idéologique large avec lequel on ne serait pas toujours en accord. Et la deuxième chose aussi, Opération Libéraux, c'est quand même une manière de faire de la politique qui est différente de celle d'un parti. C'est quand même un style qui est différent, une manière qui est peut-être plus sympa, qui est peut-être plus dynamique, dans laquelle on se retrouve plus facilement. C'est aussi une manière d'accéder à des responsabilités plus rapidement qu'au sein d'un parti. Pour des jeunes, c'est aussi très intéressant en termes d'expérience de venir militer chez Opération Libéraux.
Moi, je tiens à dire que les actions de flyering, et c'est génial aussi, je vous invite à vous joindre à moi.
Distribution de tracts, actions symboliques sur les réseaux sociaux et sur le terrain, ou encore café politique. Opération Libéraux joue sur plusieurs tableaux.
Genève. Et comment réagissaient les passants quand ils te voyaient avec ton enthousiasme?
Et avec l'accent québécois.
Oui. Le fait qu'une Québécoise s'intéresse à la politique suisse, je pense que ça peut un peu ébranler et dire « Pourquoi moi, je ne m'y intéresse pas ?»
Le mouvement compte environ 1200 membres officiels. Mais au gré des campagnes, dans tout le pays, c'est près de 4000 personnes qui s'engagent ponctuellement.
Bonjour, je m'appelle Charmilino et je suis militante pour Opération Libéraux. Bien sûr, les jeunes, on les atteint par le relais des médias sociaux, mais sinon, c'est vraiment en allant parler avec les gens dans la rue, en tentant de vulgariser, de bien analyser la situation et aussi en s'informant des inquiétudes des gens.
On les entend, ces voix qui disent « Attendez, vous n'êtes ni Suisse, ni même européenne, et tout d'un coup, vous venez là nous dire ce qu'on doit voter, vous venez nous dire ce qu'on doit faire. » Vous répondez quoi à ces gens?
Eh bien, il y a déjà une dame qui m'a dit exactement la même chose. Elle m'a dit « Vous êtes québécoise, mais qu'est-ce que vous faites à venir voter chez nous ?» Et en fait, j'ai répondu « Madame, je ne vote pas, je fais de la politique. »
Opération Libéraux récolte des fonds grâce au financement participatif. En 2018, le mouvement a reçu près de 9000 dons, de moins de 250 francs pour la plupart. Au total, plus d'1 million de francs ont été récoltés pour les différentes campagnes.
Donc bonsoir à toutes et à tous.
Quelques jours plus tard, rendez-vous pour un café politique, l'occasion pour le public d'échanger avec des politiciens locaux sur cette fameuse loi sur les armes.
Cette votation est infiniment importante. Ça a été dit dans le contexte d'un accord cadre, et quelque part c'est un test.
Fanny Randane, ce soir c'était un café politique, le but voilà, c'est d'encourager la discussion. On a quand même eu l'impression que c'était un peu une discussion entre experts aujourd'hui.
C'est vrai qu'il y avait plusieurs experts dans la salle, donc on en a profité, c'était l'occasion. On profite de ce café politique pour prendre une verrée après et puis partager d'autres opinions un peu plus personnelles peut-être.
Stéphane Decret, ce sera quoi après le prochain combat d'Opération Libéraux?
On a envie de nous impliquer dans la campagne des élections législatives en Suisse qui aura lieu cet automne, mais sans présenter nos propres candidats parce qu'on n'a pas envie de devenir un parti. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un appel à candidature sous la forme d'une offre d'emploi parue dans les journaux pour attirer des candidates et des candidats qui souhaiteraient se présenter aux élections législatives sur des listes de partis, de défendre nos propres idées dans le débat public, dans le cadre de la campagne électorale.
Et qu'est-ce que vous espérez pour cette campagne?
On espère faire basculer la majorité du Parlement de conservatrices à un peu plus centristes et progressistes, et surtout plus ouvertes au monde et plus progressistes sur les questions sociétales. Ce qu'on essaye de faire, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait au préalable. Donc voilà, c'est quelque chose d'ambitieux, mais on n'a aucune certitude, aucune garantie de réussite, même si on pense qu'on a des armes et maintenant une certaine influence qui vont nous permettre d'orienter le débat public dans la direction souhaitée.
Influencer les partis et la politique suisse de l'intérieur, c'est donc la prochaine mission d'Opération Libéraux.
Regard croisé sur France Inter.
On termine sur le continent africain avec Charlotte Simonard de RFI, ce tour d'horizon des nouveaux modes d'expression de la démocratie. Le Kenya est l'un des pays les plus connectés d'Afrique. 43 millions de Kenyans, soit 83% de la population, ont un accès à Internet. La conséquence, c'est logiquement un usage important des réseaux sociaux, avec leur foisonnement de débats sur tous les types de sujets, avec aussi les dangers liés aux infox, ces fausses nouvelles qui ont pollué au Kenya la dernière campagne présidentielle.
9h du matin dans un café au cœur de la capitale kényane, Patrick Gatara tapote déjà sur son smartphone. Shorts et sandales ouvertes, t-shirt à l'effigie d'une souris bien célèbre, il n'a rien du look du père de famille de près de 50 ans.
Je suis en train de regarder mon fil Twitter, c'est l'une des premières choses que je fais quand je me lève. Si je ne consulte pas Twitter pendant une heure, je commence à sentir que quelque chose ne va pas.
Patrick Gatara est ce qu'on appelle désormais un influenceur, suivi par près de 100 000 personnes sur Twitter.
Ce matin, j'ai créé le hashtag KI Democracy Myth. Cela évoque les mythes que les Kenyans peuvent se faire sur la démocratie, ce qu'ils pensent être de la démocratie, et ce que je pense personnellement qui ne l'est pas. Pour l'instant, j'ai 78 likes et 71 partages, ce qui est plutôt pas mal, sachant que je l'ai posté il y a 2 heures.
Comme Patrick, ils sont plus de 8 millions de Kenyans à utiliser les réseaux sociaux à raison de 3 heures par jour. En 10 ans, ils sont devenus de véritables plateformes de débat public.
Ce que j'aime particulièrement sur Twitter, c'est que des citoyens ordinaires ont la possibilité de remettre en cause le discours du gouvernement. Il y a quelques années, avant l'explosion des réseaux sociaux, ce n'était pas possible. Nous devions juste croire les informations qui nous étaient données. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous adresser à d'autres Kenyans et ensemble rejeter ce que le gouvernement nous dit.
Le chercheur Patrick Mutahi a rédigé une étude sur l'explosion des réseaux sociaux au Kenya, publiée il y a 2 ans. Il travaille au CRIPS, un bureau d'études sur les droits humains et les politiques en Afrique. Selon lui, tout a commencé il y a plus de 15 ans.
En 2002, le gouvernement de l'époque a considérablement étendu le réseau des communications et il y a eu la libéralisation du secteur des télécommunications. De nouvelles sociétés sont apparues comme Safaricom. L'accès à Internet est devenu plus abordable. Les prix ont baissé car plusieurs acteurs sont entrés dans le jeu, créant plus de compétition. Entre 2002 et 2007, beaucoup d'investissements ont été faits dans les infrastructures pour les nouvelles technologies.
Les Kenyans communiquent par téléphone portable, une révolution à l'époque qui montrera rapidement ses dangers. Nous sommes en 2007, l'élection présidentielle se clôture et les résultats sont annoncés. Résultats contestés par l'opposition qui crie au scandale. Une vague de violence s'empare alors du Kenya dans des proportions inattendues.
Les violences ont été essentiellement nourries par les SMS que les gens s'envoyaient. La plupart étaient des messages de haine entre tribus rivales. Ici, la politique est une question ethnique. Quand 10 personnes recevaient ces messages, chacune l'envoyait à 10 autres personnes et ainsi de suite. C'est une spirale. C'était la première fois que les gens ont réalisé qu'ils pouvaient s'adresser à un large public avec un simple SMS, mais c'est à double tranchant.
Ces violences ont causé la mort de 1 500 Kenyans et fait plus de 600 000 déplacés. En 2013, nouvelle élection, c'est le boom des réseaux sociaux investis désormais par les politiques. Ils réalisent alors leur potentiel en matière de communication. Cette année-là, ce sont davantage des messages de paix et d'appel au calme qui sont diffusés. Les leçons de 2007 sont tirées. Mais depuis, les réseaux sociaux ont modifié la politique tout entière. C'est ce qu'a constaté Julius Igey en 10 ans de journalisme. Il est aujourd'hui rédacteur en chef au Daily Nation, l'un des principaux quotidiens du pays.
La manière de faire de la politique a changé, ainsi que les outils. Tous les politiciens vont désormais sur Twitter, sur Facebook, pour s'adresser aux Kenyans. Ils peuvent ainsi toucher les citoyens directement et avoir leur retour. Nous, les médias, avons aussi changé, car nous sommes obligés d'aller sur les réseaux sociaux pour voir ce que les politiciens postent. Ainsi, les médias ne jouent plus le rôle de rempart comme avant.
And that the media is no longer the gatekeeper that it was.
Les réseaux sociaux sont aujourd'hui un espace de liberté pour les Kenyans, si bien que des polémiques enflent régulièrement, notamment sur Twitter. Dernière en date, celle qui a ébranlé le New York Times. Le 15 janvier dernier, un complexe hôtelier à Nairobi est la cible de terroristes. Bilan, une vingtaine de morts. Le lendemain, le quotidien américain diffuse des photos de victimes kenyanes abattues à leur table de restaurant. Twitter s'enflamme et dénonce.
Les gens disaient « Vous ne le faites pas quand il s'agit de victimes américaines. Pourquoi le faites-vous avec nous ?» Et le New York Times a essayé de s'expliquer. Il n'a pas voulu présenter ses excuses, mais était d'accord pour éventuellement changer le chef de bureau du quotidien au Kenya. Cela ne serait jamais arrivé avant, car les gens auraient pensé qu'ils n'avaient aucun pouvoir face à ce géant des médias internationaux. Mais aujourd'hui, tranquillement installés dans leur maison ou assis dans le bus, les Kenyans peuvent tweeter et faire bouger les choses en une heure.
Derrière cette affaire, une communauté tout entière réunie sous le hashtag KOTI, Kenyans on Twitter, un groupe créé en 2012 devenu très influent sur la toile. CNN, autre média américain, en est depuis la cible. L'influenceur Patrick Gatara raconte avec un large sourire.
CNN a eu affaire à la communauté Kenyans on Twitter à trois reprises. Par exemple, quand Barack Obama est venu au Kenya en 2015, CNN a affiché une bannière sur un reportage qui disait que le Kenya était le terreau du terrorisme. Obama visite le siège du terrorisme, quelque chose comme ça. Le hashtag Someone Tell CNN est sorti pour le dénoncer. Cela a fait tellement de bruit que le gouvernement s'en est emparé. CNN a été forcé de s'excuser. Le vice-président de CNN a même dû venir ici au Kenya.
Le hashtag KOTI brandit comme un outil pour la démocratie, un moyen d'expression pour les citoyens. Mais pour le journaliste Julius Igey, son influence pose question.
Je pense que c'est une forme de dictature. Ce n'est pas parce qu'on représente une majorité que cette majorité a forcément raison. C'est problématique, car si les Kenyans de Twitter ne sont pas d'accord avec quelque chose, ils peuvent le faire tomber.
Autre challenge pour le Kenya, légiférer contre les diffuseurs de fausses informations et de messages de haine. Le vide juridique en la matière a particulièrement été exploité durant la dernière campagne présidentielle de 2017.
Regards croisés, les médias francophones publics sur France Inter.
Avec nous en duplex de France Bleu Hérault, merci au passage à nos amis de Montpellier pour cette liaison, Stéphane Ozil, fondateur de l'agence Ozil Conseil, spécialiste des réseaux sociaux. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Est-ce que vous pensez qu'on assiste, grâce ou à cause des réseaux sociaux, à une sorte de révolution de la démocratie ou bien alors juste à un changement de nature de la démocratie ?
Je dirais que c'est une révolution quand même, notamment si on se place du point de vue de la technique de communication jusqu'à notre époque. Parce que jusqu'à présent, on avait tout le temps affaire à une communication qui était descendante. C'est-à-dire qu'on avait les élites, pour parler de façon un peu rapide, qui prenaient des décisions, qui géraient la communication de ces décisions en les testant à la fois sur leurs opposants, sur quelques journalistes. Et puis ensuite, on voyait un peu ce que ça donnait et surtout, on recueillait le fruit de ces décisions seulement au moment des élections. Mais on avait plus ou moins contrôlé ça grâce aux sondages et on avait pu gérer les éventuels dérapages. On a vu que ces dernières décennies, ça s'est pas toujours bien passé, mais c'était à chaque fois perçu comme des accidents. Alors qu'avec les réseaux sociaux, le processus s'est nivelé, c'est-à-dire qu'on ne peut plus mettre en place ce processus descendant puisque chaque individu a lui-même la possibilité de prendre la parole et de mesurer l'impact de cette parole grâce aux réseaux sociaux, de voir en fonction du nombre de retweets, de vues de vidéos, si cette parole est reçue, si elle trouve une adhésion et si donc elle est suivie, notamment lorsqu'il s'agit de décisions de manifester, par exemple, comme on l'a vu ces derniers mois.
Donc pour les institutions occidentales, il faudrait envisager d'autres façons de gouverner en augmentant le rythme des consultations électorales, par exemple, avec le risque de se trouver en campagne électorale permanente quand même.
Exactement. Alors c'est justement une question et la Suisse propose justement ce type de solution. C'est souvent cité un exemple, sauf que dans le cas de la Suisse, il y a vraiment une éducation séculaire qui a été faite à ce niveau-là, une conception de la citoyenneté particulière. En France, c'est vrai que ça pose question. Je pense déjà que nous sommes quand même un petit peu dans une bulle à l'heure actuelle et que ce phénomène étant tellement nouveau, il y a à la fois un côté un petit peu désemparé des hommes politiques qui subissent ce changement, mais aussi des médias qui ont un peu de mal à savoir comment traiter ce nouveau rapport de force qu'il y a dans l'information. On a vu que, notamment en ce qui concerne les Gilets jaunes, puisque c'est quand même le dernier exemple flagrant à ce niveau-là, il y avait une espèce de compétition, en tout cas vécue comme telle sur le terrain, entre des Gilets jaunes qui voulaient qu'on traite leur information, enfin l'information qui représentait d'une certaine façon, et ils le manifestaient avec beaucoup d'hostilité face à certains médias. Donc il y a vraiment cette compétition qui se met en place.
Un des problèmes soulevés par cette explosion de démocratie directe, sans filtre, c'est l'absence d'interlocuteurs pour les institutions, parce que on voit bien un mouvement protestataire, mais à chaque fois que le gouvernement, en l'occurrence sur les Gilets jaunes, a voulu avoir un interlocuteur, l'interlocuteur a été immédiatement discrédité par l'ensemble des autres Gilets jaunes.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, chacun se reconnaît dans l'autre par rapport à l'empathie en termes de colère, on va dire, que l'autre manifeste. C'est-à-dire je me reconnais dans la colère de l'autre, mais pas forcément sous l'angle de ce qu'il porte comme proposition, comme revendication. Et c'est en ça que les réseaux sociaux sortent complètement de l'organisation codifiée de la communication qui était en place ces dernières décennies.
Mais ce qu'on voit qui s'exprime, en fait, c'est surtout du mécontentement qui est véhiculé par les réseaux. On voit assez peu de propositions ou de solutions.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, d'un seul coup, c'est comme si toute une partie de la population, je vais parler un petit peu par image, mais découvrait la pédale d'accélérateur sur une voiture et n'avait de cesse de s'en servir pour dire « voilà, j'existe, je peux avancer dans cette direction désormais », alors qu'avant, ça m'était interdit. D'un seul coup, une certaine parole prend de la valeur et a un impact, alors que jusqu'à présent, elle n'en avait pas, si ce n'est dans les urnes. Et encore, le vote blanc, par exemple, a été longtemps un sujet de polémique. Donc en fait, cette colère est difficilement canalisable parce que les Gilets jaunes sont des interlocuteurs justement parce qu'ils sont en colère. Mais par contre, là où c'est pour ça que les médias d'une part et les hommes politiques de l'autre part, les personnalités politiques, sont désemparés, c'est qu'on ne sait pas comment canaliser ça, on ne sait pas comment à la fois considérer cette parole-là. Mais si on la prend en compte, il faut justement qu'il y ait un interlocuteur qui fasse des propositions concrètes et auxquelles on peut donner suite. Sauf que dès que quelqu'un accepte de se mettre autour de la table, tout le monde le discrédite, comme vous venez de le dire. Donc c'est très difficile à ce niveau-là. C'est justement une forme d'anarchie, quelque part, au niveau de la communication et de la prise de parole publique.
Donc selon vous, il faudrait à la fois que les gouvernements et que les médias se réforment assez rapidement pour pouvoir appréhender ces nouvelles formes de communication?
Alors c'est très difficile de faire de la prospective à ce niveau-là parce qu'on ne sait pas encore une fois comment les choses vont tourner. On verra déjà la façon dont va être gérée les conclusions du grand débat national. On va voir aussi la façon dont les choses vont éventuellement s'organiser ou se désorganiser suite à ça. Et derrière, il faudra là aussi mesurer la façon dont les hommes politiques tireront des conclusions ou pas. Donc c'est très difficile de savoir comment les choses vont tourner. On peut juste à la rigueur expliquer en quoi les réseaux sociaux en tant qu'outils technologiques au service d'une certaine parole sont venus casser des codes qui étaient en place depuis des décennies. Et c'est en ça que les réseaux sociaux sont une révolution. C'est que la radio et la télévision étaient venus renforcer des codes de communication existants. Et ils s'étaient mis au service d'un système de discussion citoyenne qui était préexistant à eux. Les réseaux sociaux ont cassé cette façon de communiquer entre les dirigeants, les médias et les citoyens.
Et donc, on frappe pas l'économie d'une forme de régulation nouvelle. C'est bizarre parce qu'après tout, la promesse d'Internet et donc des réseaux sociaux après, c'était de donner plus de liberté aux individus.
Oui, mais je pense que là aussi, il y avait, je vais pas être ironique en disant que c'était une fake news, mais enfin, il y avait quand même un peu de ça. C'est vrai que l'humanité a vécu pendant des siècles sur l'idée que le salut venait de la gratuité de l'information, de la gratuité de la culture et de l'accès à l'information. Victor Hugo disait « Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons ». Et on se rend compte, dans notre génération, qu'il y avait quelque chose là-dedans qui n'était pas entièrement juste, puisque aujourd'hui, grâce à Internet, tout le monde a accès à toute l'information possible et imaginable. On parle d'infobésité, donc ça veut bien dire que tout le monde est submergé d'informations sur tous les sujets. On peut devenir spécialiste d'un sujet à condition de passer assez de temps devant son écran. Et on se rend compte que dans notre génération, cela crée justement toujours plus de théories complotistes, toujours plus de personnes qui pensent qu'on leur ment lorsqu'on leur donne une information qui est trop vérifiée pour être vraie, entre guillemets, si vous me passez l'expression. Donc voilà, on se rend compte que tous les codes, là aussi, dans la perception qu'on avait de l'humanité, de son rapport au savoir et à l'information, sont en train de s'effondrer sous un certain angle.
C'est quoi la révolution d'après, le coup d'après les réseaux sociaux, d'après vous?
Ça sera l'intelligence artificielle. J'ai beaucoup écouté ces derniers temps Laurent Alexandre sur ce sujet et aussi Cédric Villani. Et on se rend compte qu'il y a vraiment une autre évolution qui se pointe. Laurent Alexandre, par exemple, fait partie de ceux qui déplorent que la France et l'Europe ne soient pas saisies de ces problématiques-là. L'intelligence artificielle, à cette fois-ci, viendra justement rajouter une couche sur ce qui concerne le débat dont on vient de parler, puisqu'elle changera, à cette fois-ci, le monde du travail. Et donc, ça sera une deuxième révolution sociale qui viendra s'ajouter, justement, au malaise qui s'exprime à l'heure actuelle.
Stéphane Ozil, merci.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes fondateur de l'agence Ozil Conseil, spécialisée dans le conseil aux entreprises et aux collectivités sur l'usage des réseaux sociaux. C'était Regard croisé, une émission proposée par l'Association des médias francophones publics, réalisation Violaine Ballet. La semaine prochaine, retour d'Interception, le magazine de la rédaction de France Inter. Au programme, un mois avant le scrutin européen, un reportage en Espagne signé Marie-Pierre Véraud.